Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur Canal M, c'est l'émission Regard sur le monde. Diane, nos invités d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mme Lauriane Landry, qui est agente de projet à l'Association sportive des aveugles du Québec. Et nous recevons également Serge Savoie, qui est atteint de cécité totale. Il va venir nous parler de sa vie, quoi.
Alors, comme Diane l'a mentionné tout à l'heure, nous avons le bonheur de recevoir Mme Lauriane Landry, qui est agent de projet à l'Association sportive des aveugles du Québec. Bonjour, Lauriane.
Bonjour.
Quelle est la mission de l'Association sportive des aveugles du Québec?
Donc, en fait, l'Association sportive des aveugles du Québec a vraiment pour mission de favoriser la pratique du sport chez les personnes qui ont un handicap visuel, mais aussi une mission de sensibilisation au niveau du grand public et des autorités sur le plein potentiel de ces personnes-là.
Donc, ça sert énormément à briser l'isolement chez les gens qui sont atteints de cécité et qui peuvent faire du sport comme tout le monde.
Oui, bien, on brise l'isolement, on crée des groupes, en fait. C'est comme une petite communauté. Donc, on entend parfois dire, bien, ma gang de hockey, bien là, c'est ma gang de goalball qui est là avec moi tous les vendredis soirs avec qui je vais faire du sport.
Donc, si je comprends bien, vous invitez des gens à s'inscrire dans quelques activités sportives que vous offrez. C'est un des volets?
Oui, donc on a plusieurs activités. On en a pour les adultes. Donc, on a ce goalball récréatif qui a lieu en ce moment les vendredis soirs. Et bientôt, il va y avoir le tennis sonore qui va commencer les mercredis soirs. Et ça, c'est seulement au niveau des adultes. Donc, on a aussi des programmes pour les enfants qui ont lieu en ce moment à Montréal et à Québec. Et éventuellement, bien, en région aussi, c'est ce qu'on souhaite.
Qu'est-ce que vous avez comme programme pour les enfants?
Donc, on a le programme du sport pour moi. Donc, c'est vraiment de dire, enfin, j'ai du sport pour moi. C'est des enfants de 6 à 12 ans qui vont faire différents sports selon la saison. Donc, à chaque session, on va varier. Donc, la session d'hiver, c'est souvent du ski de fond, de la raquette, du patin, du judo. L'été, on va faire du kayak, de l'escalade, du yoga. Et à l'automne, bien, on y va, natation, soccer. Donc, ça, name it, il n'y a rien qui nous arrête. Et ça, c'est juste un des programmes jeunesse.
Maintenant, est-ce qu'on parle de jeunes qui sont en cécité totale ou en basse vision aussi? Quelle est la pathologie de vos gens qui sont inscrits à vos activités?
Donc, en général, ça va vraiment dépendre d'un groupe à l'autre, aussi de la région. Nous, on a des enfants qui ne voient pas du tout à des enfants qui sont pas encore légalement aveugles, donc qui sont en perte de vision. Ça va vraiment varier d'un groupe à l'autre, d'un enfant à l'autre. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on est capable d'adapter tous nos sports à tous ces jeunes-là, malgré la variété d'handicap qu'ils ont au niveau visuel.
Donc, les jeunes qui arrivent chez vous, est-ce qu'ils ont besoin d'être accompagnés ou vous fournissez également les accompagnateurs?
Donc, en fait, chez nous, on a toujours un instructeur qui est spécialisé dans un sport et par la suite, c'est vraiment des intervenants sportifs. Donc, souvent, c'est des personnes qui ont une formation en kinésiologie spécialisée dans le mouvement pour vraiment s'assurer que l'enfant va correctement le faire pour ne pas se blesser, mais aussi pour prendre les bons acquis parce que notre objectif, c'est vraiment de leur donner les acquis nécessaires pour pouvoir faire du sport, pas juste avec nous, mais pour le futur.
J'imagine que ça arrive qu'il y a des enfants qui arrivent chez vous et puis qui n'ont jamais fait de sport, qui n'ont pas eu aucun contact avec une activité sportive. Est-ce que ça arrive?
Ça arrive. Je dis, ma plus grande tristesse à chaque début de session, c'est de voir le nombre d'heures de sport que les enfants font en dehors de l'école et de nos programmes. Souvent, je vois des zéros. Ce qui n'est pas normal. Un enfant a besoin de bouger presque tous les jours. Ils ont besoin de dépenser leur énergie malgré le fait qu'ils ont un handicap. Donc, c'est de donner une première opportunité de faire du sport. Pour certains d'entre eux, ils n'en font même pas à l'école parce qu'ils doivent rattraper dans d'autres matières. Donc, c'est vraiment de leur donner une base nécessaire pour dire « OK, ben, je suis capable d'en faire en dehors de l'école », de donner parfois des outils aussi aux parents indirectement qui vont nous regarder puis vont dire « OK, ben, je suis capable de faire ça avec mon enfant, je ne le savais pas ». Donc, c'est leur donner tout plein d'outils aux deux.
Comment on joue au soccer?
C'est une bonne question.
Donc, dans le fond, le soccer, c'est le 6-foot. Donc, en fait, c'est une adaptation du futsal, donc du 5 contre 5. On a 4 joueurs ayant un handicap visuel sur le terrain. Et pour que tout le monde soit égaux, on a un bandeau sur les yeux. Les goalers peuvent être voyants ou encore malvoyants. Et on joue avec un ballon sonore. Donc, on apprend à travailler ensemble pour pouvoir se déplacer. Et bien entendu, là, des petites stratégies, comment on fait. Puis quand on désire attaquer, pour s'annoncer, ben, on doit le faire soit avec un petit mot, là, ça peut être « voy » ou « fiu fiu », tout dépendant d'où est-ce qu'on
vient. Stratégies, ouais, c'est ça.
Exactement.
l'historique de l'association, ce sera bientôt 30 ans que l'association existe. Ça a commencé comment, tout ça?
Donc, on a été fondé en 79 comment ça a commencé? C'est vraiment pour répondre aux besoins d'offres de services de sport pour, entre autres, régir le goalball. Le goalball, il n'y a aucune équivalence ailleurs.
Qu'est-ce que c'est le goalball pour nos auditeurs?
Donc, le goalball, c'est un sport d'équipe qui a été inventé spécialement pour les personnes qui ont un handicap visuel. Donc, c'est un sport de trois personnes sur le terrain, pour un maximum de 6 personnes au total. Ça joue sur un terrain là, d'une largeur d'un terrain de volleyball et on joue avec un but de 9 mètres, donc le plus long but au monde, et on a un ballon sonore comme on lançait un peu style bowling. Donc de cette façon-là, étant donné que c'est un ballon sonore, on va pouvoir le repérer au son. Tout le monde joue avec des bandeaux, donc ça, c'est la plus grande difficulté. Et l'objectif, ben, justement, c'est d'empêcher le ballon de rentrer et de le relancer rapidement à l'autre équipe pour faire des points.
C'est 3 contre 3?
Oui.
Je crois que... est-ce que ça ne deviendra pas éventuellement un sport olympique?
C'est actuellement un sport olympique, justement. Donc, on a l'équipe canadienne, là, dont au niveau de l'équipe masculine, Bruno Haché, qui est un de nos représentants québécois. Puis, on travaille encore, justement, pour grandir le goalball au Québec, le faire plus connaître pour avoir une relève.
Qu'est-ce qui vous anime, parce qu'on vous sent très animé auprès de votre travail, qu'est-ce qui vous anime le plus dans ce que vous faites? Quand vous voyez ces jeunes, par exemple, vous disiez, les jeunes, c'est zéro en termes d'activité physique, ils arrivent chez vous et là, il y a une explosion d'énergie, j'imagine. Qu'est-ce qui vous anime dans tout ça?
Moi, je suis arrivée à l'association il y a à peu près 2 ans et demi. J'ai vu des jeunes qui embarquaient sur... Parce que les premiers sports que j'ai faits, c'est de l'escrime puis du mayak, qui est un dérivé du kayak. Et je voyais ces jeunes-là qui n'étaient pas du tout à l'aise sur une embarcation ou qui n'étaient pas du tout à l'aise avec en essayant un nouveau sport. Puis là, je les vois d'une session à l'autre. Et ces jeunes-là sont rendus à aimer le sport. Au départ, c'était les parents qui les poussaient à le faire. Puis là... Ils en mangent, ils reviennent d'une année à l'autre, puis on s'entend, c'est les mêmes sports qui reviennent de session à l'autre parce que, à un moment donné, c'est le fun de réessayer des sports. L'escrime, c'est un sport assez le fun, comme le kayak, mais aussi, c'est de les voir, de dire, OK, je me souviens de ce que j'ai fait, puis ils sont vraiment motivés à embarquer, puis c'est ça que j'aime, c'est ce qui me motive moi-même.
Donc, vous êtes agente de projet, donc votre quotidien, c'est de coordonner des activités, être en contact avec les jeunes...
C'est un peu tout ça. Donc, principalement, c'est de coordonner les activités, discuter avec les parents, embaucher les intervenants sportifs, les instructeurs. Par la suite, ben, c'est d'être sur le terrain, voir comment le travail se fait, m'assurer que tout va bien se faire. C'est aussi de donner la formation. Donc, tous nos instructeurs et nos intervenants ont une formation qui s'appelle l'intervenant sportif et la déficience visuelle. Donc, de m'assurer que tout le monde a la formation, de leur donner, puis après ça, de m'assurer qui ont bien compris et de s'assurer que vraiment, quand ils vont donner des instructions, ça soit bien compris par les enfants et de leur donner une rétroaction pour qu'à chaque fois, on soit meilleur.
Avant qu'on passe à la pause musicale, j'ai une question qui me brûle. Vous avez parlé de kayak, mais vous avez prononcé un autre nom.
Oui, ça s'appelle le mayak.
Qu'est-ce que c'est?
Le mayak, en fait, c'est une petite embarcation en plastique où est-ce que au lieu d'être assis dans le kayak, on va être à genoux dessus. Puis c'est beaucoup plus facile pour les enfants, c'est plus malléable et ça a très peu de chances de chavirer. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on adore ça.
Et comment les enfants s'orientent?
Par le son. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que si je suis à la tête de l'équipe de kayak, je vais chanter des chansons pour que les enfants viennent me rejoindre. Il y en a encore qui voient un tout petit peu, donc c'est des choses qui peuvent se faire. Puis les personnes qui ont vraiment beaucoup de difficultés, il n'y a pas de problème. Parfois, on embarque 2 dans un kayak en attendant de pouvoir faire du mayak.
On passe à une pause musicale et on est de retour avec notre invité.
Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter. Pour changer de saison, pour changer de maison, pour changer d'habitude. J'y pense chaque soir en guettant du regard ton enfance qui joue à rompre les amarres et me laisse le goût d'un accord de guitare. Tu as tant voyagé, moi de mon côté, j'étais souvent partie. Des Indes à l'Angleterre, on a couru la terre, mais pas toujours ensemble. Et à chaque retour, nos mains se rejoignaient sur le dos de velours d'un chien qui nous aimait. C'était notre façon d'être bons compagnons. Mon enfant, mon petit, bonne route, tu prends le train pour la vie et ton cœur va changer de pays. Ma fille, tu as 20 ans et j'attends le moment du premier rendez-vous que tu me donneras chez toi ou bien chez moi. Sur une terrasse où nous évoquerons un rire au coin des yeux, le chat ou le poisson qui partageait nos jeux, où nous épellerons les années de ton nom à vivre sous mon toit. Il me semble parfois que je t'avais perdu. Je vais te retrouver, je vais me retrouver dans chacun de tes gestes. On s'est quitté parents, on se retrouve amis. Ce sera mieux qu'avant, je n'aurai pas vieilli. Je viendrai simplement partager tes 20 ans. Mon enfant, mon petit,
de retour avec notre invitée, Mme Lauriane Landry, qui est agent de projet à l'Association sportive des aveugles du Québec.
Mme Landry, j'aimerais entendre quelques histoires concrètes des choses que vous avez vécues là où vous travaillez.
Oui, donc des histoires concrètes, j'en ai à tous les jours. C'est vraiment assez impressionnant de voir le sourire des enfants satisfaits. Dernièrement, on avait une petite course à relais qu'on faisait sous le thème des habiletés de base et les enfants étaient tout à fait heureux de pouvoir dire « OK, ben c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné ». On leur transmet un petit certificat écrit en braille, donc c'est un petit clin d'œil justement à ça de l'accessibilité. Et tu sais, quand on parle d'accessibilité, c'est pas toujours au niveau des sports de compétition. On essaie aussi de développer cet intérêt sportif-là chez les enfants. J'ai un de mes exemples, c'est un enfant né au Québec, mais dont les parents voyageaient à l'étranger, qui a grandi principalement en Afrique. Et il faisait nos programmes, il adorait le sport, ça c'est... Il n'y avait pas de question. Lui, son plus grand fun, c'était de nous faire des surprises. Donc, malgré le fait qu'il ne voyait pas du tout, il arrivait à nous écouter, entendre nos voix, puis venir nous faire des petits sauts dans le dos. C'est son plus grand plaisir. Puis un matin, il m'est arrivé, puis il dit « J'aimerais ça faire du basket, voir c'est quoi le basket. » Et, pourquoi pas? Regarde, même si le panier, on le voit pas, je vais te le décrire. Je me suis mis en dessous. Je lui ai dit, regarde, le panier est à telle hauteur au-dessus de moi. Essaye de le lancer par rapport à ma voix, par rapport à la hauteur que je t'ai donnée. Puis le jeune, il a juste eu du plaisir à essayer de lancer au basket. Puis même si ça ne deviendra jamais un sport qu'il va pratiquer, c'est d'essayer. Puis c'est cette drive-là qu'on veut vraiment aller chercher.
Est-ce que vous avez des gens qui reviennent à chaque année pendant longtemps?
Oui, en fait, c'est la majorité de nos participants là, qui reviennent d'une session à l'autre jusqu'à temps qu'ils se sentent à l'aise, soit d'intégrer un club à la maison, près de la maison, ou encore, pour certains, à un moment donné, ils sont rendus trop vieux, ils se disent « OK, bon, je dois dire bye-bye à du sport pour moi », puis ils versent une larme, mais ça reste la réalité qu'on veut aussi leur donner l'opportunité d'essayer quelque chose ailleurs.
C'est comme une grande famille pour eux, finalement.
Oui, c'est une grande famille. On a essayé de partir à un programme cette session-ci sur la Rive-Sud et j'ai des parents qui m'ont dit « J'aimerais vraiment ça, mais mon garçon veut revenir avec ses amis qui sont dans le programme de Montréal. Je vais le faire la demi-heure de route de plus parce qu'ils aiment ça être ensemble. Ils vont à la même école, ils sont contents. »
Est-ce que vous avez des témoignages de parents par rapport à leurs observations de leurs enfants?
Donc, en fait, on a des petites vidéos. Ben, on en a un pour le moment qui a été fait avec Joanie, la maman de Rosalie, qui nous parlait de son expérience à Du Sport pour moi. La maman venait de Bromont pour tous les samedis matins pour reconduire sa fille pour faire le programme. Donc, pour elle, il y avait vraiment une grosse différence. Donc, elle a été interviewée. Je viens de réaliser un petit court vidéo là, la fin de semaine dernière avec un papa de deux jeunes filles dans notre programme. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il va être disponible, mais éventuellement, ça va être disponible sur nos réseaux sociaux et sur notre page web.
Vous avez c'est une très grosse activité. Je pense qu'elle est une activité de financement aussi, la course lumière. Qu'est-ce que c'est?
Oui, donc la course lumière, on a eu notre 6e édition septembre dernier. Donc, c'est toujours le septembre qui suit la fête du travail. Excusez-moi, le samedi qui suit la fête du travail. Donc, c'est un événement bénéfice pour nous parce qu'on va entre autres chercher du financement pour nos programmes. Donc, on réunit des coureurs, qu'ils soient voyants, malvoyants ou non-voyants, pour courir dans le noir. Donc, tout le monde arrive, le départ se fait à 20 heures et on est dans le parc Maisonneuve et on court avec très peu de lumière pour se diriger. Donc, c'est une expérience de sensibilisation, c'est un événement de financement et à chaque année, là, on a à peu près une quinzaine de coureurs handicapés visuels qui viennent à l'événement pour courir avec des coureurs voyants.
Et comment c'est organisé? Est-ce qu'ils sont pairés? Est-ce qu'ils sont...
Donc, en fait, au niveau du jumelage, donc nous, on fait on aide nos membres à faire du jumelage. Donc, tout d'abord, si une personne a besoin d'un guide coureur, on peut essayer de l'aider avant la course, donc pour s'entraîner, pour être meilleur à la course. Puis, ça va vraiment dépendre de chaque individu parce que selon mon niveau de vision, je vais avoir besoin d'un guide qui va me donner plus ou moins d'informations. Mais ça, il n'y a pas de problème. Puis, même encore là, on a une formation pour les guides qui vont accompagner un coureur malvoyant. Non-voyant.
Vous êtes dans le sport qu'on peut appeler de haut niveau, dans le sens que vous déléguez des athlètes dans le milieu de la compétition. Ça fait partie de votre mission à l'association.
Oui, donc en fait, malheureusement, on n'a pas l'expertise d'accompagner chaque athlète au niveau compétitif pour chacun des sports. Donc, on va travailler en partenariat avec d'autres associations ou regroupements. Donc, par exemple, Vélo-Québec qui accompagne en ce moment 3 athlètes au niveau québécois qui vont performer un peu partout à l'international. Et nous, on va s'assurer de leur fournir de l'assistance, qu'elle soit financière au niveau des assurances, mais aussi au niveau de se faire connaître, de faire connaître le sport, faire connaître les résultats. Donc, on va travailler ensemble à ce niveau-là.
Vous avez également un volet sensibilisation de la population?
Oui.
Alors, racontez-nous quel est ce volet?
Donc, le volet sensibilisation passe entre autres par la course lumière, où est-ce qu'on va avoir des coureurs voyants, mais elle va aussi passer beaucoup par la formation. Donc, notre programme de formation, l'intervenant sportif et la déficience visuelle, qu'on va donner à n'importe quelle personne qui est intéressée, qui va vouloir la suivre, c'est pour des clubs, des écoles, même nos instructeurs vont suivre cette formation-là. Donc ça, c'est un des volets de sensibilisation. Et l'autre volet, c'est le programme Silence, s'il vous plaît. Donc ça, c'est des c'est des écoles, des professeurs d'éducation physique qui nous appellent et qui nous disent « j'aimerais ça faire du goalball avec mes jeunes qui sont en 4e, 5e primaire ou encore même au secondaire. » Et là, on va leur expliquer c'est quoi la déficience visuelle et on va les faire jouer au goalball. Et parfois, là, ça peut être un athlète qui va se déplacer puis qui va faire la conférence.
Pourquoi silence?
Parce qu'en fait, quand on fait du goalball, le goalball se joue en silence parce qu'on a un ballon sonore. Donc, l'arbitre va dire « quiet please ». Donc, on a traduit le tout pour « silence, s'il vous plaît ».
S'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont contaminés par votre enthousiasme, comment on peut inscrire nos enfants? Comment ça fonctionne?
Donc, en fait, la première chose à faire, c'est d'appeler à l'association parce que selon où est-ce que vous êtes, l'âge que vous avez ou votre enfant, c'est différents programmes qu'on va pouvoir vous proposer. Et donc, l'objectif, la première chose, c'est de nous appeler. Donc, pour le faire, c'est 514-252-3178. Sinon, si vous êtes curieux et que vous n'osez pas encore appeler, vous pouvez aller voir sur notre site Internet qui est le www.sportavecuns.qc.ca.
Alors, à ce moment-là, on a toutes les informations. Quels sont les grands défis de votre association au cours des prochaines années?
Donc, je dirais nos deux défis objectifs, principalement, c'est la relève en goalball. Donc, ça reste que le goalball, c'est notre sport, c'est un peu notre surnom, c'est la Fédé de goalball. Donc, c'est de créer cette relève-là, cet engouement-là dans les régions et même à Montréal. Donc, de développer un programme qui s'appelle le mini goalball où est-ce qu'on fait jouer les enfants. Et l'autre volet, c'est toujours au niveau des finances. Donc, on veut s'assurer justement d'avoir suffisamment de rentrée d'argent pour pouvoir développer nos programmes. Donc, on a eu beaucoup d'expansion au niveau des programmes jeunesse dernièrement. On en veut encore plus et on en veut encore plus aussi pour les programmes pour les adultes.
Est-ce qu'il y a une relève, ça fait drôle de dire ça, mais au niveau du goalball, par exemple, est-ce qu'il y a une relève, est-ce qu'il y a des athlètes montants dans ce secteur-là actuellement?
Donc, dans les athlètes connus actuellement, on a Bruno Haché, qui est capitaine de l'équipe québécoise et canadienne en goalball. Et dans la relève, on a Raki, un joueur anglophone, et on a Tristan, un joueur francophone, qui font partie de la relève de notre équipe. Et notre plus jeune relève, là, c'est un jeune garçon là, d'à peu près 11 ans et qui s'appelle Ludovic et dont le rêve est d'être joueur de goalball. Donc, on va espérer que d'autres personnes soient contaminées comme lui.
On répète le numéro de téléphone pour rejoindre l'Association des sports des aveugles du Québec, c'est?
C'est le 514-252-3178.
Lauriane, merci infiniment d'être venue à notre micro et bonne chance et longue vie à votre association.
Merci.
Alors, parmi nos informations, on a parlé tantôt de l'Association sportive des aveugles du Québec. Eh bien, ils sont en pleine inscription, pleine période d'inscription pour que les gens puissent découvrir ou encore redécouvrir le tennis sonore. Alors, la session d'une durée de 6 séances sera encadrée par une instructrice de tennis sonore. Alors, les gens sont invités, les participants inscrits auront accès à un gymnase à l'école Joseph Charbonneau. C'est à tous les mercredis. Alors, si les gens veulent avoir de l'information, c'est le 514-252-3178, 514-252-3178, et c'est le poste 3716. Et si vous cherchez une idée originale pour le souper de Noël de votre équipe de travail, bien, venez vivre une expérience marquante et découvrir ce dont vous êtes capable quand vous ne voyez rien. Alors, c'est dans une ambiance conviviale et sécuritaire que le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le RAM, vous invite à vous mettre dans la peau d'une personne aveugle le temps d'un repas. Les yeux bandés dès votre arrivée chez nous, vous devrez faire appel à vos autres sens et à votre débrouillardise pour souper et relever quelques défis. Pardon. Alors, les membres du RAM vivant avec un handicap visuel se joindront à votre groupe pour vous guider. Pendant votre cécité temporaire, vous partagerez leur expérience de vie et répondre aussi à toutes vos questions. Les dates de ces soupers, c'est le jeudi 6 décembre ou encore le 13 décembre. Et c'est une activité approximativement de 3 heures. Alors, si vous voulez faire une petite soirée de Noël originale, vous faites le 514-277-4401. C'est au poste 116 et c'est au RAM. Et à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans l'est de Montréal, on vient d'acquérir un nouvel outil qui permettra de réaliser avec encore plus de précision des interventions dans un secteur en effervescence, celui des greffes de cornée. L'établissement était fier de présenter son tout nouveau microscope électronique OCT au coût de 640 000 $. C'est un microscope qui utilise la tomographie par cohérence optique qui permet des gestes beaucoup plus précis pour le chirurgien. Alors, c'est un appareil qui devra permettre d'améliorer le taux de réussite des chirurgies de l'œil pour les patients atteints de maladies de la cornée, de la rétine ou du glaucome. Les médecins s'attendent notamment à voir diminuer les complications avant ou après l'opération. Chaque année au Québec, environ 1000 greffes de la cornée sont réalisées, dont presque le tiers sont réalisées à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On va aller faire un petit tour du côté de l'Europe. Il y a une trentaine de bénévoles de l'association genevoise Topé Vino qui roule en tandem avec des personnes atteintes d'un handicap de la vue. Alors, l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants les soutient financièrement et aiguille souvent des sportifs intéressés. 22 aveugles roulent de manière active avec une trentaine de bénévoles fidèles et indispensables. Ils ont à leur disposition 23 tandems en aluminium construits sur mesure. Et nous avions déjà reçu à notre micro deux athlètes québécois qui s'entraînent actuellement pour les Jeux de Tokyo.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait, ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin.
Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le. C'est une romance d'aujourd'hui.
Canal M, c'est votre émission Regard sur le monde et nous recevons, on a dit d'entrée de jeu, Diane, au début de l'émission, qu'on recevait Serge Savoie, mais
oui, mais on
reçoit
avait une surprise,
la famille
hein?
de Serge avec Caroline et
Olivia.
Olivia. Donc, la chanson de Michel Fugain, ce n'est pas un hasard. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. On aura l'occasion de parler de tout ça avec nos invités. On va parler avec Serge. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de venir à notre micro. Serge, vous êtes de Chambly.
Tout à fait.
Et vous êtes atteint de cécité totale depuis quelques années. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Oh, c'est une longue maladie, le glaucome. Donc, ça s'est produit... une partie, j'ai perdu un œil à l'adolescence et le second à l'âge adulte. Voilà.
Et vous étiez à ce moment-là, vous travailliez dans le communautaire, je pense.
Oui, dans un organisme communautaire jeunesse de lutte à l'exclusion sociale, un organisme nommé Posa Source des Monts à Chambly.
J'imagine que quand vous êtes jeune, vous perdez la vue tranquillement. Ça ne doit pas être facile quand même à aborder et à anticiper.
Oui, effectivement. À l'adolescence, de perdre l'usage de l'œil droit, ça... Effectivement, ça a été un bon choc, surtout qu'à l'époque, le médecin m'avait dit que je ne pouvais pas conduire d'auto. Donc, à 16 ans, c'était un grand drame, disons, dans ma vie. Puis, donc, c'est ça. Mais par après, les choses se sont stabilisées. Puis, honnêtement, je croyais pas que j'étais pour devenir aveugle non plus plus tard. C'est une maladie congénitale, donc c'est dans la famille. Et on regarde ma mère qui va avoir 77 ans bientôt et elle voit encore juste d'un œil, mais elle voit encore. Donc, moi... Je croyais que ce serait comme ça aussi pour moi. Donc, ça a été une surprise à 38 ans que le glaucome revienne dans l'œil encore gauche et jusqu'à temps que la vision parte.
Comment on fait face à ça? Comment on s'en sort?
Bien, c'est sûr qu'au début, on doit absorber le choc. Dans mon expérience personnelle à moi, parce que je pense que c'est chacun son expérience, bien, il faut d'abord, comme je dirais, un peu l'accepter, premièrement. Et ensuite, il faut être capable d'aller chercher de l'aide. On est chanceux, je le dis souvent, là, au Québec, ici, d'avoir des bons centres de réadaptation partout dans chacune des régions du Québec. Étant de la grande région de Montréal, nous, c'est l'Institut Nazareth et Louis Braille. Donc, à un moment donné, parce que ça faisait peut-être un an que j'étais rendu aveugle, j'ai fait appel donc au service de l'Institut, puis on est pris en charge de très bons professionnels qui viennent parfois à la maison, parfois nous, on va directement à l'Institut. Et donc, selon ce qu'on veut faire, donc chacune des sphères de la vie peut être mise en réadaptation. Dans mon cas, j'avais le désir là, au niveau de l'orientation et de la mobilité, de pouvoir me promener librement le plus possible. Ensuite, j'avais le besoin, moi, d'apprendre l'informatique adaptée pour pouvoir continuer à communiquer par courriel ou encore... par rapport au travail aussi, c'est bien important pour moi. On en reparlera tantôt, là, mais on est capable aujourd'hui, avec l'informatique adaptée, même pour les gens non-voyants total, là, de bien fonctionner.
Justement, quand on demande de l'aide, de quelle façon, comment on en arrive? Est-ce que c'est, on est rendu au désespoir à ce moment-là? Ou...
Dans mon cas, encore une fois, disons que le désespoir était comme venu un peu avant ça. Puis à un moment donné, c'est comme si un ressort était sorti de mon corps, ou en fait m'avait fait lever de ma chaise pour donner une image. Puis dire là, il n'y a pas question, moi, je me suis dit, il n'y a pas question que je vais rester comme ça, à rien faire, cloîtré dans ma maison. Pour moi, ce chemin-là ne m'intéressait pas du tout. J'entrevoyais que du négatif là-dedans. Donc, disons que ce ressort-là que je nommais, une intervention divine ou je ne sais trop, c'est à ce moment-là que moi que j'ai décidé, je dis, bon, ben c'est sûr, je veux faire de la réadaptation, je veux apprendre à me débrouiller. Il y a eu des aveugles avant moi qui ont fait des grandes choses, il y en aura d'autres après moi, donc je suis capable autant qu'un autre. Et c'est à ce moment-là, par contre, qu'il faut vraiment se dire, c'est apprendre l'aide professionnelle là, pour s'adapter finalement. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'avais déjà le petit push, là, la petite poussée pour dire OK, on va chercher de l'aide, puis on commence quelque chose qui va être long, mais qui va aboutir à quelque chose.
Comment ça se passe au quotidien au travail?
Dans le cas du travail, probablement dans mon cas, j'ai repris le travail, mais quelques années plus tard. Là, j'ai dû d'abord m'habituer à toutes sortes de choses. Ensuite, j'ai fait un retour aux études, ce qui a été un bon prélude pour moi pour voir si j'étais en mesure d'occuper un emploi, donc d'aller aux études à l'Université de Montréal, où j'étais déjà allé aussi à l'époque. Donc, tout ça m'a mené à dire que chronologiquement parlant, je me suis réimpliqué bénévolement dans l'organisme que j'avais fondé à l'époque, avec d'autres, co-fondé, je devrais dire. Donc, en faisant du bénévolat, en ayant été à l'école et tout ça, me rendant compte que j'étais de plus en plus à l'aise pour utiliser justement l'informatique, faire ce que je faisais avant beaucoup, c'est-à-dire penser à des projets, les développer, les planifier, les organiser. Ça se fait beaucoup dans la tête, tout ça. Moi, je suis quelqu'un plutôt cérébral plutôt que manuel. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était donc peut-être plus facile de recommencer à travailler. Et donc, tranquillement, pas vite, j'ai donc recommencer à travailler formellement, donc d'avoir un salaire et être un employé rémunéré.
Donc, c'était à l'organisme où vous étiez avant, quand vous aviez la vue. Oui. Et est-ce que c'était les mêmes personnes qui étaient là à ce moment-là?
Quelques-unes, je dirais, mais il y avait quand même eu certains changements. Mais disons qu'on me connaissait quand même assez bien là, à l'interne, effectivement.
Vous étiez en pays de connaissance.
Oui, oui. Ne serait-ce que l'endroit physique, les lieux, la maison que l'organisme occupe. C'est moi, alors qu'on était directeur, on avait procédé à l'achat de la maison. Je la connaissais très, très bien. Je la connais très bien, cette maison-là. Le chemin pour de chez moi à me rendre là, pour moi, c'était l'ayant fait des milliers de fois. C'était ma ville, Chambly, donc c'est pas une grande ville non plus. Donc, chaque trottoir ou à peu près, je les ai parcourus. Donc, c'est ça qui a été facilitant. Ceci étant dit, une personne non-voyante peut très bien se débrouiller dans des endroits qu'elle ne connaît pas, en autant qu'encore une fois, qu'elle va chercher l'aide qu'il faut, encore une fois, dans notre cas ici, dans la région de Montréal, à l'Institut Nazareth et Louis Braille.
Le travail, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites quotidiennement au sein de votre organisme?
Moi, je suis, disons, en gros, un coordonnateur de projet. Donc, entre autres, à titre d'exemple, j'ai le mandat, la campagne de financement. Donc, on organise différentes activités pour aider au financement de l'organisme. On a le service du travail de rue, que moi, j'ai déjà fait du travail de rue à l'époque. Donc, moi, aujourd'hui, ben je coordonne un peu le travail, le déploiement des ressources dans le milieu, là où on en a besoin, la recherche de subventions et tout ça en lien avec le travail de rue, dans ce cas-là. La supervision clinique des intervenants. Donc, les intervenants, pour ceux qui ne savent pas, un travailleur de rue, ça va dans les parcs, dans les endroits publics, là où les jeunes se tiennent, les jeunes un peu plus marginaux, tentent d'établir des liens avec eux autres, pas vite, pour, disons, entre guillemets, les raccrocher à quelque chose selon les besoins qu'ils manifestent. Donc, voilà, mais ça prend de la supervision là, pour ces employés-là. Donc, l'ayant déjà fait, il y a moi j'ai un background en psychoéducation, donc tout ça fait que c'est tout du travail que je peux faire malgré le fait que je ne vois plus aujourd'hui. Là.
Prendre pause musicale, on est de retour avec notre invité et la famille.
You are the one for me, for me, for me, formidable.
You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
De retour à notre émission Regard sur le monde et on est en compagnie de Serge Savoie et sa petite famille et on va parler justement du quotidien, comment ça se passe. D'abord, vous avez une histoire d'amour qui s'est passée autour d'une caisse dans une épicerie.
Oui, tout à fait.
Donc, vous vous connaissez depuis toujours. Vous, oui. Serge, vous étiez emballeur et puis Caroline, bonjour Caroline.
Bonjour.
Vous étiez caissière.
Oui.
Bonjour Olivia.
Tu peux dire bonjour.
Elle a quel âge, Olivia?
7 ans.
Ah, oh, ça passe vite, vite, vite.
Oui.
Et justement, Serge, à la naissance d'Olivia, vous aviez déjà perdu la vue.
Oui, exact. Donc, malheureusement, j'ai jamais vu ma fille.
Et je me souviens, dans les conversations que nous avons eues, on parlait de changer les couches et ça, c'était un défi pour vous. Comment ça se passait? Oui.
Ben, je dois quand même avouer, j'en ai pas changé beaucoup, mais voilà, encore là, j'avais eu de l'aide de l'Institut Nazareth, je le nomme souvent, mais ils m'ont quand même beaucoup aidé. Donc voilà, donc tout peut se faire, il faut juste y prendre plus de temps, et comme je dis souvent à la blague, mais c'est quand même vrai, disons que moi, des wipes, là, les fameuses petites oui. lingettes humides, ben j'en passais plus qu'il faut pour être sûr que tout était propre.
Alors, Caroline, quand vous êtes ensemble depuis toujours, donc Serge avait la vue au moment où vous avez commencé à être ensemble.
Oui.
Et comment on vit que son conjoint perd tranquillement la vue? Comment on l'absorbe? Comment on s'adapte?
Bien, c'est toujours plus dur pour lui que pour moi. Nous, ça a demandé à la famille des adaptations du genre, bien, penser toujours à avancer les chaises quand on se lève puis qu'on a terminé de table, des choses comme ça. Éviter qu'il reste des jouets, des souliers dans le chemin, toutes sortes d'affaires, des sacs d'école. Fait que c'est sûr que, vous savez, une porte de la vaisselle ouverte. Ça, c'est arrivé à quelques reprises, malheureusement. Mais c'est le genre de petit changement qu'on apporte au quotidien qui fait la différence pour la sécurité de mon chum, tu sais. Puis c'est ça. C'était pas tant, je crois, tu sais, au point de vue de l'environnement, c'était surtout ça. Point de vue personnel, ben moi, je l'aime encore. Puis pour ça, ça n'a pas changé. C'était pas... tu sais, qu'ils perdent la vue, bon. Il restait un œil en partant qu'il voyait, fait que c'est sûr que c'est toujours un risque, hein, rendu là. Il en perd un, mais c'est le dernier, fait que... Mais pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. En tout cas, pas dans mon amour envers lui, puis pour lui non plus.
Qu'est-ce que ça a impliqué de votre côté par rapport à toute sa réadaptation, l'accompagnement?
Ben un peu de temps. Puis c'est ça, de penser pour moi à changer, ou même pour mes deux plus grandes filles, de changer nos habitudes. ça prend toujours un petit peu de temps. Fait que ça a pris quelques bleus, quelques ecchymoses pour y penser. Mais je pense pas que ça prend quelque chose de particulier. Je pense que quand on aime, ben on aime la personne telle qu'elle est. Puis s'il vient qu'arriver une différence, ben c'est sûr que c'est un choix personnel. Puis je comprends que tout le monde n'est pas à l'aise de vivre avec ça. Moi, là-dessus, ça changeait pas. Tu sais, mon chum, je le vois pas différemment.
Justement, est-ce que l'attitude, je m'adresse aux deux, est-ce que l'attitude des autres, de votre entourage, a changé?
Ben, oui, c'est sûr que les gens, au début surtout, je dirais, les gens étaient, ma famille proche, exemple, je vais donner l'exemple de ma mère, était très inquiète que son garçon soit dans cette situation-là, puis comme probablement n'importe quelle mère.
Comme mais, tous les parents.
Exact. Ma mère étant une personne très sensible aussi et tout ça. Donc, puis bon, aussi, il faut quand même dire, ça, donc l'aspect congénital de la chose vient de son côté à elle, fait que le sentiment de culpabilité est aussi très fort et tout ça. Mais disons qu'en général, l'attitude des gens, parfois aussi, on peut remarquer hein, des généralités du style que les gens ne savent pas, comment je dirais là, ne savent pas quoi nous dire, sont mal à l'aise. Donc, c'est ça. Faut d'abord nous-mêmes devenir de plus en plus à l'aise pour que moi, aujourd'hui, j'ai la chance de dire que j'ai un bon cercle d'amis, des bons vieux amis du temps, puis même, dans certains cas, des nouveaux amis, parce que, disons, je ne vais pas être quelqu'un qui va s'apitoyer sur son sort, qui va toujours revenir avec ça. Donc, j'essaie de plus possible d'être comme tout le monde, finalement. Mais c'est sûr que, bon, on a besoin d'aide aussi, c'est normal, là. Mais donc, je pense que l'attitude de la personne, nous-mêmes, comment on se sent, comment on se perçoit, ça va refléter comment les autres vont nous percevoir. Et ça vient avec un certain cheminement, une certaine réadaptation, une certaine acceptation de sa situation. Puis voilà. Mais sinon, voilà, au début surtout, je remarquais beaucoup que mes amis ou même des parents, puis tout ça, ne sachant pas quoi me dire, on est mal à l'aise. Puis je suis comme ça moi aussi dans des situations, là on parle de quelqu'un qui est aveugle, mais il y a toutes sortes de situations dans la vie, quelqu'un qui vit un deuil, puis tout ça, on dirait que des fois, en majorité, les gens, on sait pas quoi dire, on sait pas comment réagir. Fait que on essaie d'éviter ces situations-là.
Quelle est la meilleure façon d'agir dans ces situations-là?
Ben, je pense que la meilleure façon, c'est de rester nous-mêmes, c'est de voir si la personne, au-delà de dire qu'elle n'est pas chanceuse dans ce qu'elle vit ou tout ça, c'est de voir quels sont ses besoins, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? Puis souvent, on n'a pas besoin de tant que ça, on a juste besoin, si je me réfère à mes débuts, puis encore aujourd'hui, je veux dire, on a juste besoin d'être entouré, d'avoir des amis, de vivre des choses... qui sont plaisantes et tout ça. Puis oui, dans mon cas, ne faites pas voir. Donc, j'ai besoin de temps en temps, je prends le bras de quelqu'un pour suivre, pour aller prendre une bière où on allait dans le temps, où on va encore aujourd'hui. Mais c'est simplement ça. Je pense que c'est d'agir le plus normalement possible, puis d'intégrer la personne qui vit le handicap ou la situation difficile le mieux possible. C'est ça. C'est difficile à dire aussi quand même. Là, mais...
Vous avez également un chien guide avec vous. Il est par terre là, dans le studio, tout tranquille. Comment ça s'est passé, l'intégration de... Comment ça s'appelle?
Il s'appelle Cora, c'est un garçon.
Cora.
Ouais.
Okay.
Donc, un chien Mira. Ben, écoutez, au début, il faut d'abord, pour les gens qui sont intéressés à ce niveau-là, qui sont non-voyants, il faut d'abord passer par l'Institut Nazareth et Louis Braille, ou en tout cas par son centre de réadaptation local, pour apprendre à bien se déplacer et bien s'orienter nous-mêmes comme non-voyants. Parce que le chien fait une partie du travail, mais ne fait pas tout le travail. À la blague, je dis souvent, les gens pensent que quand on est à un coin de rue, c'est le chien qui décide quand on traverse la rue, c'est lui qui voit les couleurs des lumières. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà, faut d'abord faire nous-mêmes notre propre réadaptation. Et ensuite, dans mon cas, je vais donner encore mon exemple, ça faisait peut-être un an là, que j'avais commencé ma réadaptation, et là, je me suis dit que j'avais le goût, probablement, j'aime beaucoup les chiens, j'en ai déjà eu quand j'étais voyant. Puis je me disais que ça pouvait m'amener quelque chose de plus, d'avoir un chien guide. J'ai fait un appel, une demande carrément à la Fondation Mira. Puis donc, ils me font une évaluation et ensuite, bon, selon comment ça va et tout ça, on va faire ce qu'on appelle une classe chien. C'est-à-dire que là, on va... quand c'est ton premier chien guide, tu passes 4 semaines à Sainte-Madeleine chez Mira pour apprendre vraiment, premièrement pour créer le bon lien avec le chien et pour apprendre aussi comment ça fonctionne un chien guide. Donc, et ensuite, comme là, moi, mon chien, il reste peut-être un an ou deux encore avant sa retraite. Le prochain chien que j'aurai, ben, c'est 2 semaines qu'on passe à Sainte-Madeleine parce que là, on a les bonnes bases là, pour savoir comment ça fonctionne.
Olivia, est-ce que tu peux jouer avec Cora des fois?
Oui.
Oui, à quoi tu joues avec lui?
Des fois, on joue au frisbee parce que c'est un frisbee en cône. Mais des fois, on joue avec ses anneaux, avec sa balle.
Exact.
Donc, il fait partie de la famille.
Tout à fait.
Caroline, comment on... J'imagine qu'il y a des moments de découragement, il y a des moments où on se dit, bon, comment on passe à travers tout ça?
Bien, c'était surtout au début que ça a été un peu plus dur. Puis c'était plus dur aussi au début de voir mon chum à la maison puis qu'il avait moins le moral et qu'on trouvait le temps long parce qu'au départ, ça devait être juste temporaire. Fait qu'on est toujours au début dans l'attente que ça revienne, la vision. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, on se rend compte que là, ça revient pas pour finalement, au bout de 3-4 mois, se faire dire « bon, bien, c'est définitif, ça reviendra pas ». Fait qu'il y a cette période-là aussi qui s'est mitigée parce que, bon, on est toujours en train d'attendre que ça se corrige, dans le fond, que ça revienne. Pardon. Mais quand on a su que vraiment, là, c'était définitif, moi, je me souviens, c'était en 2010, j'ai dit, bien, l'année 2010, ça va être, c'est toi qui vas voir comment tu vas la vivre. Tu peux, oui, t'apitoyer sur ton sort puis trouver ça difficile ou tu peux voir ça comme des défis. Parce que c'est vraiment comme une série de défis. Réapprendre à t'orienter, te raser, toutes sortes de choses, tu sais, banales, qui semblent banales, choisir tes vêtements, organiser ça pour que, dans mesure du possible, tu t'en sortir, ça fit. Mais tu sais, bon, ça, c'est secondaire. Mais je me souviens qu'au départ, Serge n'osait pas se raser de peur de se couper ou quoi que ce soit. Fait qu'à un moment donné, il s'est décidé. Fait que j'ai dit, c'était à lui, dans le fond, de voir comment il allait vivre ça. Mais moi, j'ai quand même un bon moral. Moi, j'ai un bon sens de l'humour. Fait que c'est sûr que le découragement, je l'ai peut-être moins vécu. C'est plus de voir, je pense, mon chum, tu sais, trouver ça difficile. Quand il arrive, je me souviens des fois d'y arriver des occasions, puis tu sais, on va tous dire ça à un moment donné. « Oh, t'aurais dû y voir la face qu'elle a faite en recevant son cadeau de fête », des choses comme ça. L'émerveillement, tu sais, dans les yeux de notre enfant Noël que lui ne voit pas. C'est le genre de choses que moi, ça me rendait plus triste, puis ça me faisait plus quelque chose, tu sais, de savoir qu'il manquait ça, dans le fond. Puis bon, on n'a pas les mots, des fois, pour dire... T'sais, pour savoir quoi répondre, mais on n'a pas non plus des fois les mots pour dire les belles choses ou pour décrire autant que c'est la beauté que la vie nous présente dans un sens. Là.
Si vous aviez, pour les quelques secondes qui nous restent, si vous aviez à vous adresser à un conjoint ou un conjoint qui vit la même genre de situation, qu'est-ce que vous dites à ces gens?
Moi, je dirais, allez chercher de l'aide, premièrement, n'ayez pas peur. Ne pensez pas que vous êtes fini, qu'il n'y a plus rien à faire. On est encore une fois au Québec, on est chanceux, on peut aller chercher de l'aide, on a des services gratuits, de très bons services professionnels. Allez chercher de l'aide dans votre entourage aussi, foncez le plus possible. Je pense qu'il faut toujours avoir des projets, peu importe la grosseur du projet, que ce soit de faire un casse-tête ou de monter un événement, peu importe. Il faut bouger. Moi, je dis toujours, on va de l'avant, même si c'est juste marcher aujourd'hui par le dépanneur.
Et en tant que conjointe, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui
moi, j'ai goût de leur dire, si vous aimez réellement, soyez là l'un pour l'autre, puis je pense que le reste va être juste plus facile. Quand on est bien accompagné, puis qu'on a la chance d'être avec la personne qu'on aime et qui nous aime en retour, je pense que juste ça, à la base, c'est beaucoup, puis il faut poursuivre dans cette direction-là.
Alors, Serge Savoie et Caroline et Olivia, merci d'être venus à notre micro. Et merci. La prochaine chanson est pour vous, c'est Fred Pellerin, Tenir debout.
Merci.
Sur la semelle de mes bottes, quand elles se frottent au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle.
une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de gris et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort. C'est dans le silence qu'une réponse.
Alors voilà, c'était Regards sur le monde. Diane, nous avons une émission exceptionnelle encore aujourd'hui. À la semaine prochaine, mesdames, messieurs.